France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Mon invitée est romancière, alors elle est aussi scénariste. Si vous voulez mon avis, elle a coécrit quelques-uns des plus jolis films que j'ai vus. Ceux de Noémie Wolfsky, Petite, La vie ne me fait pas peur, Les sentiments, Camille redouble. De ceux qui m'ont fait bien pleurnicher dans les salles de cinéma. Mais c'est pas pour ça qu'elle vient nous voir aujourd'hui. Son 7e roman vient de paraître aux éditions de l'Olivier et son titre, Un perdant magnifique, dit déjà beaucoup. Bonjour Florence Sevaux.
Bonjour Marie Laborie.
Et merci, bienvenue dans les Midis de Culture. Oui, alors ce perdant magnifique, c'est Jacques. Jacques, c'est le beau-père de la narratrice, Anna. Anna qui est adolescente, qui vit avec sa mère, sa sœur, et donc Jacques, quand il est là, Jacques. Quel personnage c'est, dans un roman, le personnage du beau-père? C'est particulier, c'est évidemment pas le père, ça ne crée pas du tout les mêmes relations de tension, d'affection. Voilà. Qu'est-ce que ça crée comme personnage de fiction, le beau-père, cette figure?
Ah, c'est une bonne question. J'ai l'impression qu'en fait, le beau-père, ça permet énormément de choses parce que ça déplace juste un peu. Voilà, évidemment, il est une forme de père pour ses deux belles filles. Mais il y a une petite distance qui fait qu'il y a des choses qu'il ne se permettra jamais. Et en même temps, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont possibles et qui n'arriveraient pas avec un père, comme, je sais pas, cette espèce de pacte non dit qu'il y a entre elle et lui, d'être d'accord pour que la vie soit exaltée. Et puis, il les aime d'une façon inconditionnelle. Alors évidemment, il y a aussi des pères qui aiment leurs enfants d'une façon inconditionnelle. Mais dans ce cas-là, évidemment, il y a quelque chose d'un peu étrange dans cette affection qu'il a pour elle.
Et inversement, dans l'affection qu'elle a pour lui.
Oui.
Parce que comme c'est pas son père, c'est la famille, mais c'est pas tout à fait la famille, il l'a vu grandir, mais pas complètement. Ce regard d'une jeune fille sur un homme adulte, qui a un rapport d'éducation avec elle, c'est un regard aussi sur l'altérité, sur l'adulte, c'est son premier regard posé sur un adulte qui n'est pas celui de sa famille exactement, en fait.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, à peine les a-t-il rencontrés, sa sœur et elle, que Jacques entreprend en fait une sorte de séduction, parce que lui, ce qu'il veut, c'est cette famille-là. Il veut vivre avec leur mère et il veut les embarquer toutes les trois. Il veut fonder une famille avec elle. Et il leur écrit des lettres après leur première rencontre et surtout après leur première visite là où il habite lui et où il travaille en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et elle leur écrive elle lui écrive un mot pour le remercier. Et lui leur répond à chacune une lettre personnalisée de 2 pages qu'il a probablement mis une bonne demi-journée à écrire. Parce que son but, c'est qu'elle se sente importante.
Oui, et désirée en tant qu'enfant. Et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, elle questionne ce rapport-là à Anna pendant tout le livre. On va écouter votre langue, Florence Sevaux. C'est un passage de votre livre, ça se situe au début. Jacques est revenu, justement, de Côte d'Ivoire. Il est malade et Anna passe ses soirées avec lui. On écoute Boris Pinon.
Souvent, pour éviter de le croiser, Irène montait dans sa chambre, sitôt son dîner avalé. Jacques ne cessait de lui faire des remarques sur sa coiffure. « C'est informe, disait-il, et sa façon de s'habiller. » Il avait en aversion une chemise qu'elle portait 7 jours sur 7, la lavant le soir pour la remettre le lendemain, une sorte de blouse à petits carreaux vert pâle qui lui descendait jusqu'à mi-cuisse. Ma mère montait dans sa chambre très tôt, elle aussi. Elle était épuisée. Parfois, quand je passais dans le couloir, je voyais le ray de lumière s'éteindre sous sa porte. Il n'était même pas 10 heures. Nous étions donc seuls, lui et moi, seuls avec le bruit du vent dans le jardin, la nuit noire et nos reflets dans les vitres de la cuisine. Il avait installé une petite lampe de chevet sur la table parce que la lumière du plafonnier lui faisait mal aux yeux. Cette table était sa cabane. Il avait tout à portée de main, ses lunettes, le journal au cas où il aurait eu envie de le lire, mais en général il ne l'ouvrait pas, des médicaments, du sopalin, et chaque soir un sac poubelle neuf, bien ouvert sur la chaise à côté de la sienne. Je cherchais des sujets de conversation qui s'épuisaient parfois en une minute. Je lui donnais des nouvelles de mes camarades du lycée, ceux qu'il connaissait et que je n'osais pas inviter à la maison, par peur de le déranger, surtout par peur qu'il le voit errer en pyjama, hirsute, les yeux fous. Je leur disais « En ce moment, mon beau-père est là. C'est un peu compliqué et il ne posait pas de questions. » J'avais des souvenirs pénibles de l'année précédente, eux aussi sûrement, quand ils faisaient irruption au milieu de nos parties de cartes. « Excusez-moi Nicolas, c'est bien Nicolas, votre prénom. Nicolas, auriez-vous l'amabilité de garer votre mobylette de sorte qu'elle ne dépasse pas du hangar ? Merci. » C'est une vision assez pénible. C'est positivement hideux ce porte-bagage de mobylette qui dépasse. Par ailleurs, Nicolas, le disque que vous avez mis tout à l'heure, c'était bien Coltrane, n'est-ce pas ? Quelle année ? Fabuleux. Fabuleux. Je me rappelais les visages de Nicolas, d'Olivier, de Laurence, en état de sidération, et leur soulagement dès qu'il avait disparu, nos rires étouffés. Fabuleux. Fabuleux.
Merci Boris Pinault pour cette lecture d'un perdant magnifique. On y est là, dans cet extrait, il y a toute l'ambivalence, toute l'ambiguïté de cet homme qui est capable à la fois, voilà, on l'a vu, d'émerveillement, mais de rigidité terrible aussi. Est-ce que vous, en écrivant ce roman, vous avez réussi à le comprendre complètement, cet homme, ce Jacques ?
Moi, je crois que Jacques, c'est quelqu'un qui échappe toujours, en fait, à une compréhension, mais au fond, comme nous tous. Je sais pas, un jour, j'ai entendu quelqu'un dire qu'en fait, quand quelqu'un avait disparu, on pouvait être sûr qu'on ne le connaissait pas. Et j'ai trouvé ça très beau. Mais Jacques est mystérieux parce qu'il a parce qu'il est entièrement occupé par ses projets, et que seul l'avenir compte pour lui, le présent n'a aucune importance. Donc on sait pas toujours, Anna et Irène et leur mère savent parfois une partie des projets de Jacques, mais pas toujours. Par exemple, plus tard, à un moment où ses affaires vont très mal, mais où il pense qu'elles vont se rétablir, parce qu'il est toujours optimiste, il pense toujours qu'il va s'en sortir, il envisage déjà d'acheter la maison voisine de la leur au Havre, voilà, pour s'agrandir. Et puis c'est quelqu'un de mystérieux aussi, parce qu'on connaît pas son enfance, on sait pas pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il a pas d'amis. Pourquoi il est tellement seul au point que Anna et Irène ont l'impression d'avoir une espèce de pouvoir sur lui, parce qu'elles ne lui connaissent aucune relation affective, aucun lien d'amitié. Donc elles ont l'impression d'être tout pour lui.
Pourquoi avoir choisi aussi de créer ce personnage qui n'a pas d'attache, en tout cas, vous ne donnez pas à nous, lecteurs, les clés.
Moi, j'aime faire des portraits, et j'ai l'impression qu'en fait, souvent, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, il y a un personnage qui apparaît dans un livre, et revient parfois dans un autre livre, et puis, au bout d'un moment, en fait, il faut qu'il prenne toute la place.
Petit à petit, il s'impose, mais...
Oui, par exemple, en fait, d'une façon très différente, il y avait un personnage qui ressemblait beaucoup à Jacques dans mon livre précédent, alors que c'était une sorte de conte fantastique et presque une histoire de vampire.
Alors justement, moi, ça m'intéresse que vous disiez ça, parce que il est un peu inquiétant, Jacques, quand même.
Oui.
Il y a quelque chose de l'ordre de la violence sourde. Forcément, en tant que lecteur, lectrice en l'occurrence, on se pose la question de ce qu'on pense de lui au fur et à mesure du livre. Ça, j'imagine, bien sûr, qu'en tant qu'autrice, vous y avez pensé ou pas, à la façon dont nous, on allait le réceptionner, ce personnage.
Oui, bien sûr, je me suis posé la question. Et Et d'ailleurs, je me souviens, c'est un souvenir un peu étrange, le moment où j'ai écrit une scène de nuit où les deux filles, elles sont seules, sans leur mère qui est partie retrouver son mari pour un mois ou deux. Elles sont seules, il est très tard, elles ont bu et tout à coup, alors qu'elles n'en parlent jamais, elles commencent vraiment à parler de Jacques, à prononcer des mots qu'elles n'ont jamais prononcés. Est-ce qu'il est fou ? Et elles font en quelque sorte son procès. Mmh. Voilà. Et il y a d'un côté des choses inquiétantes qui le font presque paraître comme un loup. Et d'un autre côté, elles ne peuvent pas s'empêcher de le défendre. D'une part, comme si il ne pouvait pas se défendre seul. Mmh. Et comme si c'était trop facile de l'accuser parce que les apparences sont tellement contre lui. Mmh. Avec sa brutalité parfois, son autoritarisme. Mais par exemple, au cours de cette scène de procès, fictif, elles s'aperçoivent que toujours elles ont protégé Jacques, elles ne peuvent pas s'en empêcher, et notamment, elles l'ont protégé du jugement de leur père. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ne racontent jamais.
La loyauté de ses...
Oui, elles ont une loyauté envers lui.
Ouais. Et en même temps, c'est intéressant parce que dans de nombreux livres, vous le savez, aujourd'hui, la question de la toxicité dans la famille, la question des abus au sein de la famille, ce sont des motifs littéraires très importants en ce moment, qui passent notamment par l'autofiction, ces rapports de pouvoir, de violence au sein de la famille. Vous vous placez pas exactement à cet endroit-là. Vous n'êtes pas dans une dénonciation. Et pourtant, on pourrait vraiment le voir comme quelqu'un de toxique, cet homme.
Ah oui, on pourrait le voir comme quelqu'un de toxique, mais... comment dire ? Pour moi, le rapport de force est, en fait, bien qu'elle soit des adolescentes et des mineures, et que lui soit un adulte et qu'il ait une autorité... sur elle, elles comprennent à plusieurs reprises qu'en fait le rapport de force est équilibré. Mmh. Parce qu'il a peur de les perdre. Mais par ailleurs, moi ce qui m'intéresse, c'est sûrement j'aurais fait une très mauvaise sociologue, parce que je ne m'intéresse qu'aux détails. Et on dit que le diable est dans les détails. Mmh. Je m'intéresse aux détails, je m'intéresse à l'impureté des sentiments, à l'ambivalence et aussi aux relations d'adoption. Mmh. C'est-à-dire, ça me fascine des personnes, et parce que ça m'est arrivé. Mais je crois que c'est un sujet qui me fascinait même déjà toute petite. Ce sont les rencontres au cours desquelles deux personnes, parfois d'âge très différent, s'adoptent mutuellement. Mmh. Et c'est ce qui se passe là. C'est vraiment une adoption mutuelle entre Jacques et Anna et Irène.
Je voudrais vous faire entendre les propos d'un autre auteur. C'est le romancier belge Antoine Wauters. Il était invité du Book Club sur France Culture. C'était en 2023. On l'écoute et on en parle juste après.
L'écriture, et ce titre le dit, Le plus court chemin, c'est aussi une manière de retrouver la matérialité des corps de ceux qui étaient là quand j'étais enfant, de m'en souvenir et peut-être essayer de me regreffer un peu de leur vie et de leurs gestes. Il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, mais ce serait une nostalgie qui ne nous claquemure pas en nous-mêmes et qui nous permet d'agir un peu plus et de travailler notre environnement direct en étant acteur. Et je pense à la bêche de mon grand-père, je pense à ces détails, la raclette de Georget, tout ça. C'est une nostalgie qui serait agissante pour le coup.
Voilà, il parle de nostalgie agissante. Vous vous situez dans une forme de nostalgie ?
Probablement, mais ce terme de nostalgie agissante me plaît énormément. Parce qu'il y a une espèce de... Comment dire je crois que Marguerite Duras disait qu'on écrit avec ce qu'on a oublié. Et Et moi, souvent, j'essaye, je me dis, le prochain livre, y en a marre des personnages d'enfants et d'adolescents. Enfin, c'est terminé. Y aura que des vieux. Et là, je me l'étais bien promis. Et puis, j'ai complètement échoué, comme vous le voyez. Puisqu'il y a deux adolescentes, deux jeunes filles dans ce livre. Mais sûrement, ça a à voir avec ce besoin de reparcourir des zones en fait qui sont restées très lointaines, très dissimulées, très enfouies
et qui vous arrivent maintenant vous
et qui reviennent avec l'écriture au fur et à mesure. Et il y a quelque chose de c'est une façon de reparcourir le passé, de faire ressurgir parfois des figures et à travers le portrait de quelqu'un, parfois de rendre un hommage secret à telle ou telle personne de votre enfance.
Ouais. Et est-ce que c'est une façon de se consoler ou consoler celle que vous aviez été ou pas du tout?
Oh, je sais pas. J'ai l'impression plutôt que c'est comme c'est une relecture qui fait apparaître, qui fait surgir des aspects auxquels j'avais pas pensé. Mais après, j'espère. Il me semble que. Alors, je suis pas du tout sûre que ce soit le cas de mes livres. J'aimerais beaucoup ça, mais par exemple, moi, quand j'aime un livre, c'est qu'il a eu, c'est aussi parce qu'il a eu sur moi un pouvoir de consolation, absolument.
Ouais. Il y a toujours un risque, il me semble, moi, quand on est auteur, adulte, qu'on a dépassé les 20 ans depuis longtemps, quand on revient sur l'enfance, il y a toujours ce risque de fantasmer l'enfance, de la placer à un endroit où elle n'est plus, où elle n'est pas forcément accessible à nous, adultes. Vous dites que ça vient en écrivant. Comment ça se passe? Comment cette enfance, comment être juste pour parler de l'enfance ou de la jeune adolescence? Sans avoir un regard, voilà, fantasmé, recréer une mythologie de l'enfance.
Oui, vous avez raison, c'est un vrai risque. Alors, est-ce que c'est, d'une part, une gymnastique que j'ai pratiquée avec l'écriture de livres pour enfants et mon éditrice Geneviève Prézac m'encourageait toujours à être en prise directe, à ne pas regarder de haut
les
personnages. J'avais une espèce de facilité pour ça, peut-être parce que j'étais une enfant un peu solitaire. Je passais pas mal mes mercredis après-midi toute seule avec des marionnettes à me raconter des histoires. Et j'ai des souvenirs, des marionnettes hideuses parce que je les fabriquais moi-même. Et j'ai un souvenir, j'ai beaucoup de souvenirs en fait de. Il me semble que quand on est enfant, on est sa propre chambre d'écho. Mmh. Il y a tellement de choses qu'on ne partage pas, qu'on ne partage avec personne, ni les autres enfants, ni les adultes, et on est assourdi par ces pensées qu'on ne partage pas. Et j'ai gardé l'empreinte de ces moments-là, je crois, et aussi de la lecture qu'on a du monde des adultes et qu'évidemment on ne partage pas non plus. On devine des choses qui ne sont pas formulées. Je me suis éloignée là de la question.
Tout va très bien. Moi, j'ai l'impression aussi que votre justesse dans cette description très jeune femme, ça passe aussi par une forme de rejet du sentimentalisme. C'est pas un livre qui va à l'épure, mais enfin quand même, c'est un livre qui va à l'essentiel. Il y a une forme de distance aussi, un peu comme ça.
J'espère. Oui, j'ai toujours un peu peur du sentimentalisme.
Ah oui, ça se voit, hein, ça s'entend.
Donc je suis toujours incertaine avec ça.
Mmh. Et quand il pointe, c'est comme des petits moments, mais vous arrêtez très vite en fait. Quand l'émotion sort comme ça.
Oui. Pardon, j'ai perdu le fil.
C'est pas de problème. Il y a aussi beaucoup d'humour. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de mettre les choses à leur juste place. Je trouve qu'il y a aussi des moments très drôles dans votre roman.
Ben, j'aime bien. En fait, je l'avais déjà fait ici ou là, et notamment dans un roman qui s'appelait Les Apparitions. Mm-hmm. J'aime bien mettre. J'allais dire en scène des adolescents ou des adolescentes seuls dans une maison et qui ont bu et qui fument des tonnes de cigarettes et qui se mettent à dire tout ce qu'elles pensent ou tout ce qu'ils pensent. C'est une situation à laquelle je ne résiste pas.
C'est des plaisirs, en fait. Oui. Justement, vous parliez tout à l'heure de Geneviève Brisac, donc autrice et éditrice, et qui a été très importante pour vous.
Et écrivaine,
bien sûr. Et on va l'écouter. Elle évoque justement le processus d'écriture.
C'est le livre qui décide. Parce que au début, vous partez sur votre petit chemin, là, comme ça, sans trop savoir par où il va falloir passer, un peu comme cette escalade que vous évoquiez au début, avec les choses qui résistent. Et puis, brusquement, ça prend tournure, quoi. C'est pour ça que c'est agréable, ça prend tournure. Et la forme se dégage. Il y a une métaphore que j'aime bien, qui est la métaphore de la sculpture. Vous avez un bloc de, disons, de glaise pour que ce soit pas trop dur, enfin, ou de granit si vous êtes très courageux, ou de marbre si vous êtes très riche. Et vous allez le travailler, le décanter, hein, jusqu'à ce que la forme émerge. Et la forme existe à l'intérieur.
Geneviève Brisac, c'était en 2022 dans Boomerang sur France Inter, et elle évoque finalement, elle, un processus d'écriture plutôt agréable. Est-ce que vous partagez ça avec elle ?
Oui, et j'étais très heureuse de l'entendre. Oui, il y a un moment particulier, en fait, souvent le début peut être un peu chaotique, un peu difficile, et puis il y a un moment... Qu'on guette quand on écrit, c'est le moment où le livre commence à avoir un temps d'avance sur vous. Mmh. Et Geneviève, quand j'écrivais pour elle à l'école des loisirs, m'avait dit il y a longtemps, non mais ne réfléchis pas, c'est ta main qui écrit. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion qu'elle avait absolument raison. Mmh. Et c'est le moment où ça se passe bien. Mais je crois que le livre, il est là, et parfois depuis très longtemps, dans une zone de notre tête qui ne nous est pas accessible. Et il y a un moment où cette zone inconsciente prend le contrôle, et bizarrement, il y a des choses qui ont maturé toutes seules, parfois pendant des années. Par exemple, ce livre-là, je l'ai commencé j'ai écrit les premières pages il y a une vingtaine d'années. Et puis, comme ça m'arrive parfois, c'est un choc émotionnel lié à la lecture d'un roman. Mm-hmm. Ça peut se produire parfois avec un film aussi, qui a ranimé cette matière de Belle ou Bois de roman, et qui a cristallisé aussi quelque chose, et qui a été le point de départ. Et pour ce livre-là, en fait, c'était la lecture d'un roman qui m'a profondément émue et fascinée. C'est Canada de Richard Ford, mm-hmm. avec en particulier cette première partie éblouissante dans laquelle il y a le récit, voilà, de d'un couple qui, alors qu'ils n'ont aucun talent pour ça, et ça n'aurait jamais dû leur arriver, ils décident de commettre un hold-up. Et voilà, et ils vont échouer, ils vont se retrouver en prison et laisser leur fils et leur fille adolescents seuls à la maison, avec la peur que les services sociaux viennent les chercher. Donc il y avait des choses similaires, ouais. Et vraiment la lecture de ce roman de Richard Ford, enfin, en plus d'être un immense bonheur de lecture, ça a eu cet effet déclencheur.
Alors, on parle de ce que nous fait la lecture, on parle de comment naît l'écriture, mais qu'est-ce que ça vous fait, à vous, d'écrire ? C'est une question difficile, hein.
Je crois que j'attends le moment qui parfois ne vient pas, hein, où le livre prend les commandes. Et sinon, j'ai une métaphore un peu ridicule et simpliste. J'ai l'impression qu'il y a une plante qui a poussé dans mon jardin, mais je ne l'ai pas choisie. Et si j'essaye de désherber, elle sera toujours là quand même, elle va repousser. Donc tout ce que je peux faire, c'est lui donner de l'eau et essayer voilà, à ce qu'elle pousse le mieux possible. Il y a un côté comme ça où étrangement, j'aimerais choisir ce que j'écris. Et quand je suis pas en train d'écrire, je rêve que je suis en train de choisir le prochain livre que je vais écrire. Mais dès qu'on commence, ça se passe pas comme ça.
Ça marche pas comme ça. Le livre, vous choisissez. Oui. Donc un livre sur les vieux, c'est pas demain là, pour moi, a priori.
On verra bien. Je garde un tout petit espoir.
il vient de sortir. Comment vous vous sentez? Comment on se sent quand un livre comme ça s'en va maintenant? Voilà.
pour prendre ma métaphore du côté des plantes. Moi, j'ai l'impression, quand je termine un livre, j'ai l'impression vraiment d'une feuille qui se fane. Voilà, il n'y a plus de sève, plus rien. Donc, on est obligé, d'une façon un petit peu fictive, de se remettre dans un certain état pour pouvoir en parler, parce qu'il y a un côté où on a envie de passer au suivant, donc c'est un peu étrange.
Oui, j'imagine, oui, je comprends bien. En tout cas, merci.
Mais ça passe par... c'est agréable quand ça passe par la lecture des autres.
Merci beaucoup, beaucoup en tout cas, Florence, et vous êtes venue nous parler. Votre roman,
merci à vous,
Un perdant magnifique, vient de paraître aux éditions d'Olivier. Et nous, ça nous a donné évidemment envie d'écouter un morceau qui est cité dans votre livre, Neil Young, The Needle and the Damage Done.
Knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone.
Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignel, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Anna Holweck, avec à la technique aujourd'hui Alexandre Dang.